6h45, vous écoutez France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, dans les enjeux internationaux, l'Ukraine vers des élections.
Et oui, des élections à 3 semaines maintenant de ce premier tour de l'élection présidentielle. Les deux principales figures politiques sont en désaffection dans les sondages. Les accusations de fraude et corruption sont lancées. Et un outsider surprise et amateur, acteur de série, pourrait peut-être l'emporter. Alors 5 ans après le début du conflit, toujours en cours, va-t-on vers les élections, de la désillusion. On voit ça avec vous, Christine Dugoin-Clément, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes chercheur au think tank Cap Europe et à l'IAE Business School de la Sorbonne. Vous êtes co-auteur, autrice de l'Ukraine entre déchirement et recomposition. C'était chez l'Harmattan en 2015. Alors cette fois, ce sont sans doute les élections les plus ouvertes, hein, avec 44 candidats, une étrange campagne, pas vraiment de débat, mais des attaques individuelles. Et ce candidat surprise, Volodymyr Zelensky, qui est un acteur qui dit vouloir vraiment aider l'Ukraine. Cette semaine, il donnait des interviews et en tout cas toujours en première position dans les sondages. C'est un peu le fait marquant de ces dernières semaines, vous diriez ?
Ce qui est surtout frappant, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience politique, qui n'a pas de position très très claire ou de programme particulièrement clair, mais qui remporte un assentiment assez fort. Cela dit, vous le disiez, c'est tout à fait juste, à l'instant T, les élections sont extrêmement ouvertes et il est très délicat de savoir qui sera le président ukrainien ou pas, ce qui est un fait rare à ce niveau d'incertitude.
Alors on va en venir à cette ouverture, mais déjà Zelensky, alors c'est un signe de quoi ? Donc je le disais, c'est un acteur de série dans laquelle justement il joue un historien parvenu au pouvoir en Ukraine, candidat anti-corruption. C'est un signe de la lassitude ou de l'enthousiasme des électeurs, vous diriez ?
Alors, ce qui est assez intéressant, vous le disiez, donc il a le nom de son parti reprend le nom de la série dans laquelle il joue le personnage titre, donc serviteur du peuple. Et pour recadrer un petit peu pour les gens qui sont peut-être pas familiers de l'Ukraine. Dans cette série, il incarne donc un professeur qui dénonce la corruption du gouvernement ukrainien dans une vidéo sur Internet qui devient virale et qui, de facto, déconstruit tous les problèmes de corruption. Donc on voit bien que le glissement de la popularité de son personnage de série à la personne réelle qu'il est joue de ce désir de lutte contre la corruption et de changement. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, au final, les Ukrainiens ont mené 2 révolutions, la révolution orange dans un premier temps, qui est plus lointaine, dont on parle moins, la révolution donc de 2013 et 2014 du Maïdan, en espérant avoir un renouveau des figures politiques, avoir la fin du conflit qui se déroule encore dans le Donbass, le retour de la Crimée qui à l'heure actuelle est donc sous contrôle russe. Ils espéraient aussi avoir une lutte contre la corruption assez forte, une transparence plus accrue, etc. Or à l'heure actuelle, on voit que beaucoup de ces réformes qui étaient d'ailleurs demandées par le FMI, par les partenaires européens, sont au point mort, notamment celles sur la corruption. On le voit très clairement, on a des problèmes entre les différents bureaux, donc le bureau de lutte contre la corruption, l'agence de prévention de la corruption, la procuration générale. Et chacun de ces entités devient autobloquante, ce qui a fait que très très peu de personnages connus pour leur corruption sont à l'heure actuelle inquiétés.
Oui, alors qu'on en revienne au candidat et on va dire un mot justement de la corruption et notamment de l'action de Poroshenko à cet égard, mais juste sur les sondages, c'est ça qui est peut-être un peu étonnant, c'est qu'effectivement ce Zelensky est quand même assez en avance sur à la fois Petro Poroshenko et à la fois sur Yulia Tymoshenko. Il a donné à 25% dans le dernier sondage, même s'il y en a quasiment tous les jours, je crois, c'est quasiment 10 points devant les deux autres. Comment est-ce que ça s'explique, à votre avis ?
Alors, encore une fois, il incarne une figure novatrice qui est sortie, du moins sur le principe, qui est sorti des canaux politiques classiques. Donc ça fait quelque chose un certain renouveau. Il présente aussi le souhait de vouloir mettre en place un gouvernement très technocratique, prêt à s'allier avec toutes les bonnes volontés, une démocratie directe et participative réelle. Donc il répond à ce niveau-là à beaucoup d'aspirations. Par contre, il est très très flou sur le reste, ce qui permet d'éviter de fâcher trop de gens. Oui. Quand on regarde donc notamment sa position, que ça soit par rapport à l'OTAN, au FMI, à la Russie ou à l'Europe, bon, il est assez peu clair. Il se dit prêt à négocier au niveau du conflit. Il se dit anti-guerre et arrêt du conflit, certes, mais on ne sait toujours pas tellement comment.
Ouais,
pour revenir au point des sondages, c'est assez compliqué puisque, comme vous le dites, il y en a tous les jours. Beaucoup d'Ukrainiens à l'heure actuelle déclarent finalement ne pas avoir fait un choix arrêté, et certains de ces sondages sont produits à des fins politiques aussi.
Ouais. Et alors pour Porochenko, 16% quand même, c'est assez faible hein, par rapport au premier tour de la dernière fois, deuxième tour pardon, où il avait quand même fait 54%. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce que c'est qu'il n'a pas rempli, comme on le dit, l'entièreté de ses promesses de campagne, et notamment mettre fin à la guerre qu'il avait dit le plus rapidement possible? Est-ce que c'est son bilan économique un petit peu branlant, chancelant, même si les investisseurs reviennent? Ou est-ce que c'est ces fameuses affaires, notamment anticorruption? Là encore récemment, il a été pris dans une affaire avec ce fameux Gladkovski, qui était un de ses associés et qui lui-même est en train de tomber ou a été licencié parce que pris dans une affaire de trafic, détournement de fonds.
Alors, Petro Porochenko, il a quelques forces et quelques faiblesses. Donc ses forces, on les voit assez facilement dans son slogan de campagne, qui est « armée, langue, foi ». Donc ça veut dire qu'il va essayer tout du moins de s'appuyer sur un électorat relativement conservateur, patriote, en essayant d'incarner un principe de continuité, donc d'une relative stabilité. Il essaye de profiter de quelques-uns des succès politiques, typiquement l'instauration de la langue ukrainienne que l'on a pu avoir notamment à l'école, la délivrance des visas, qui était une demande forte du Maïdan pour les Ukrainiens pour les déplacements en Europe. Néanmoins, pour beaucoup d'autres choses, il est en bien plus mauvaise posture. Vous le disiez, le conflit ne s'est pas arrêté. On est dans une solution du pas de paix, pas de guerre. La corruption est complètement bloquée. Et cela lasse, puisque même dans les affaires pour lesquelles il a été impliqué, à chaque fois, les appareils d'État ont été plus ou moins trustés et plus ou moins utilisés pour bloquer les affaires. Oui. Quand je vous parlais tout à l'heure rapidement de la lutte que l'on a entre le NABU, le NAPC et la procuration, donc le Bureau de lutte contre la corruption, l'Agence de prévention et puis la procuration générale. La procuration générale est tenue par Yuri Loutchenko depuis 2017 et qui est connu comme étant un homme de Porochenko. Donc beaucoup des actions qui pourraient être entamées par chacune des entités devient bloquée par l'autre. Les accusations mutuelles entre les uns et les autres volent, ce qui rend les choses bien plus compliquées. Quand vous parliez de l'affaire de corruption récente, ce [S2] Ouais. [S1] N'est pas la première. On pourrait tout à fait parler notamment de Nassirov, qui a été inquiété par le NABU, notamment pour un détournement de 70 millions de dollars de fonds étatiques, ce qui n'est quand même pas une mince affaire, mais qui a été abandonné par, cette accusation a été abandonnée par la cour administrative de Kiev, qui l'a réhabilité dans les services fiscaux.
Oui. Et alors,
voilà, on a ce trust, cette espèce de trust, cette espèce de capitalisation d'un certain nombre de structures étatiques que les Ukrainiens voient et qui les fatigue, si vous voulez.
Oui, avec des critiques même internationales, hein, du G7, de la Banque mondiale, concernant là cette fois une décision de la Cour constitutionnelle qui concerne l'enrichissement illicite et son lien...
l'enrichissement personnel.
Voilà, son lien avec la politique. On voit également Yulia Tymoshenko, hein, qui revient, l'ancienne de Maïdan, dans cette élection et qui revient avec des accusations très fortes, hein, le vendredi dernier, de fraude, cette fois-ci de la part du camp Porochenko. Elle dit qu'elle a des preuves, je cite, d'un vaste système pyramidal destiné à distribuer de l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à une campagne à la fois vide et sale, dans ce sens, pleine d'accusations?
Voilà. Bah, c'est très probable, pour des raisons suivantes, et vous l'avez dit, tous se tiennent dans un mouchoir de poche, qu'on est sur des programmes qui sont relativement proches. C'est-à-dire que même si on va avoir quelque chose, si vous voulez, à l'heure actuelle, excepté quelques candidats bien spécifiques, il est très délicat d'afficher au niveau de la population ukrainienne une affection forte pour la Russie. Donc les attentes sont assez claires. On peut être peut-être éventuellement critique avec l'Union européenne ou avec le FMI, comme va l'être Yulia Tymoshenko, mais on ne peut pas être complètement opposé. Donc on va être beaucoup plus pro-UE avec des décalages sur la position intégration à l'OTAN ou pas, sur ce genre de choses. Après, on est sur que faire, sachant qu'on est sur un pays qui est à l'heure actuelle en guerre, qui est économiquement compliquées et avec des programmes qui sont difficiles à structurer et à mettre en place. Quand on parle notamment de Yulia Tymoshenko, son programme principalement c'est la relance économique et industrielle et la diminution du prix du gaz, parce qu'il y avait une augmentation du prix du gaz qui avait impacté tous les foyers ukrainiens.
Ouais, et des coûts.
Elle annonce ce genre de choses, néanmoins, elle ne décline pas comment le mettre en place.
Et c'est ça, de la même manière qu'elle voulait une adhésion urgente à l'OTAN, ce sera à voir de toute façon pendant la campagne, on aura l'occasion d'en reparler, mais merci pour ce début d'explication aujourd'hui. Merci beaucoup Christine Dugoin-Clément, je le rappelle, chercheur au think tank Cap Europe et IAE Business School. Et puis n'oubliez pas, retrouvez ce soir l'Ukraine, il en sera question dans le grand reportage de la rédaction présidentielle en Ukraine, la comédie du pouvoir, par le correspondant de Radio France à Moscou, Claude Bruyot. Merci et bonne journée.